France Inter.
Il est 19h sur France Inter. Un point sur les informations avec Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'échange aujourd'hui entre trois otages israéliens, dont le franco-israélien Ofer Calderon, et 183 prisonniers palestiniens. Des prisonniers dont la Croix-Rouge dénonce leurs conditions de libération aujourd'hui. Explication à venir avec notre correspondant à Jérusalem. Et quel avenir pour Gaza et la Cisjordanie? Benjamin Netanyahou décollera demain matin vers Washington pour en parler mardi avec Donald Trump. À la une également de sérieux problèmes de circulation cet après-midi en Savoie, vers Tignes, Val d'Isère, La Plagne, Les Arcs, La Rosière, en raison d'un éboulement rocheux sur la Nationale 90. La Coupe Davis et du tennis, la France mène ce soir 2-0 face au Mexique. Et puis nous vous présenterons une application de rencontre, non pas amoureuse, mais amical, un concept qui a trouvé ses adeptes. Reportage à suivre. Et puis le ciel de demain, Céline Dacosta, le temps calme va se généraliser.
Oui, on aura encore des grisailles matinales, mais après dissipation, le soleil gagnera largement la partie.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Les trois otages israéliens étaient à peine libérés ce matin, dont le français Ofer Calderon, que Benjamin Netanyahou réclamait des informations précises sur la famille d'un des otages relâchés ce matin, Yarden Bibas, apparu le visage sombre ce matin, car nul ne sait ce qu'il est advenu de son épouse et de leurs deux fils âgés de 8 mois et 4 ans lors de leur enlèvement le 7 octobre. Concernant maintenant le sort des 183 prisonniers palestiniens qui viennent d'être libérés, bonsoir Thibault Lefebvre en ligne de Jérusalem. Eh bien, la Croix-Rouge dénonce les conditions de leur sortie de prison ce matin.
Dans un communiqué officiel, l'organisation rappelle aux belligérants qu'ils doivent faire preuve de dignité et assurer la sécurité des otages et des détenus lors des échanges. Les prisonniers palestiniens sont sortis tout à l'heure à la mi-journée du centre pénitentiaire de Qsyot. C'est dans le désert du Negev. Et les conditions de leur libération posent de sérieuses questions. Ils étaient menottés, les mains derrière la tête, et portaient un bracelet sur lequel était écrit « Le peuple éternel, Israël donc, n'oublie pas et pourchassera son ennemi ». Rien de surprenant pour Saher Shrité, il est membre de la commission des affaires des détenus palestiniens.
Ils sont en mauvaise santé, ils ont été battus, humiliés, ils ont subi des actes de torture, surtout durant les derniers jours. Pour les forces d'occupation israéliennes, la libération de ces détenus est un aveu d'échec, car certains d'entre eux étaient condamnés à de longues peines, voire à la perpétuité.
Le porte-parole du service pénitentiaire israélien assume et il précise que jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'ils quittent le sol de l'État hébreu, les ennemis d'Israël, ce sont ces mots, seront traités comme dans une prison. 183 détenus palestiniens ont été libérés aujourd'hui. Parmi eux, 111 ont été arrêtés à Gaza juste après le 7 octobre 2023, enfermés sans jugement et sans charges avérées retenues contre eux.
L'ex-otage franco-israélien Ofer Calderon a pu ce midi retrouver ses quatre enfants. Selon le Hamas, un cinquième échange d'otages et de prisonniers aura lieu samedi prochain. Et donc, question ce soir sur les ambitions d'Israël à Gaza et en Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, cinq pays arabes réunis au Caire ont rejeté tout déplacement forcé de Palestiniens vers d'autres pays arabes. En revanche, ils veulent discuter avec le président américain d'une solution à deux États. Le Premier ministre israélien décollera demain matin pour les États-Unis. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Ce dossier palestinien sera évidemment sur la table lors du rendez-vous prévu mardi à Washington, donc entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump.
Oui, c'est une rencontre très symbolique puisque le Premier ministre israélien est le premier dirigeant reçu par Donald Trump depuis sa réélection à la Maison-Blanche. Le président américain, qui a tout récemment provoqué l'émoi au Moyen-Orient en parlant de faire le ménage à Gaza avec l'envoi de ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie. Propos condamnés donc tout à l'heure au Caire par ces deux pays ainsi que par les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Sous l'œil des caméras du monde entier, Trump et Netanyahou vont mettre en scène leur bonne entente mardi prochain avec en arrière-plan des dossiers brûlants et notamment l'avenir de la Cisjordanie où, hors Jérusalem-Est, près de 500 000 Israéliens vivent dans des colonies jugées illégales par l'ONU. Pour le ministre israélien d'extrême droite Smotrich, 2025 sera l'année de la souveraineté israélienne. israélienne sur ce territoire occupé depuis 1967. Benjamin Netanyahou n'utilise pas de mots aussi directs, mais depuis son retour au pouvoir, c'est un fait, le mouvement de colonisation s'accélère.
Et il faut rappeler, Anne-Laure, que lors de son premier mandat en 2020, Trump avait déjà envisagé l'annexion des colonies de la vallée du Jourdain et Cisjordanie.
Oui, et c'était un plan pour la paix au Moyen-Orient, mais Trump n'était finalement pas allé au bout. Netanyahou était d'ailleurs au pouvoir à l'époque. Trump, qui apparaît comme un soutien indéfectible à Israël, sera-t-il effectivement le grand allié de Benjamin Netanyahou ? Il est encore un peu tôt pour l'affirmer, car dans le même temps, le président américain pourrait chercher à normaliser les rapports entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais Riyad conditionne cet accord à la reconnaissance d'un État palestinien, ce qui ne fait évidemment pas partie des plans du Premier ministre israélien.
Anne-Laure Jumet, rédaction internationale. Et puis on apprend ce soir que les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre le groupe État islamique en Somalie, c'est ce que vient de dire Donald Trump, en dénonçant, je cite, des tueurs cachés dans des grottes, des tueurs qui menaçaient les États-Unis et nos alliés. Fin de citation. Après les coups de menton, Donald Trump devrait passer aux actes en signant dans les prochaines heures l'augmentation des droits de douane que subiront le Mexique, le Canada et la Chine. Des importations en provenance de ces trois pays seront taxées entre 10 et 25%. Et ce sera bientôt au tour de l'Europe, a prévenu le président américain, en expliquant que l'Union européenne avait, je cite, « maltraité les États-Unis ». Politique radicale ? Eh bien, très bien, répond Thierry Breton. L'ancien commissaire européen au marché intérieur prône la fermeté européenne au nom de la réciprocité.
Avec Donald Trump, il faut juste être bien conscient de ce que nous sommes. Nous sommes un très grand continent. Nous sommes une très grande puissance économique. Nous sommes une très grande démocratie. Je le rappelle, 450 millions de concitoyens européens. Les États-Unis, c'est 330, 340. On est une fois et demie plus grand que les États-Unis. Pour nous, l'intégrité territoriale, c'est évidemment non négociable. Pour nous, nos lois qui ont été votées, y compris les lois numériques, c'est non négociable. Pour nous, le fait de ne pas quitter les accords de Paris, c'est non négociable. On a beaucoup de choses qui sont non négociables. Derrière, et il faut les rappeler. Parce que si on ne le rappelle pas quand on est dans des logiques transactionnelles, c'est bien de ça dont il s'agit, eh bien, celui qui est en face, il pousse jusqu'à ce qu'on dise stop. Il y a un moment où l'Union européenne doit dire stop. Je les invite donc à la fermeté.
C'est-à-dire ?
Qui dit fermeté, dit évidemment réciprocité.
Thierry Breton, ce matin, invité de France Inter.
France Inter. Éric Delvaux.
200 à 300 personnes étaient réunies cet après-midi place du Panthéon à Paris en soutien aux trois Français détenus en Iran. Cécile Keller, enseignante accusée d'espionnage, retenue depuis 1000 jours. Son compagnon Jacques Paris, arrêté en même temps qu'elle. Et enfin Olivier Grondeau, touriste français, lui aussi accusé d'espionnage. Eh bien aujourd'hui, les familles réclament la libération de leurs proches de toute urgence, Arthur Fradin.
Juchée sur une estrade déployée au milieu de la place du Panthéon, la mère de Cécile Keller, Mireille, pousse un cri du cœur.
Alors Cécile, ma fille, ça fait 1001 jours que tu as été enlevée à tes parents, à ta famille, à tes proches. Pourquoi ?
La situation de l'enseignante détenue en Iran depuis 1000 jours est aujourd'hui critique. 3 ans de détention dans des cellules de 8 mètres carrés sans fenêtre, éclairées 24 heures sur 24. Une épreuve pour Léa, une amie qui porte un t-shirt Liberté pour Cécile.
Je pense à elle tous les jours. C'est terrible de s'imaginer, c'est terrible de continuer de vivre en se disant que elle, sa vie est entre parenthèses. C'est dur tous les jours.
Pour entrevoir une porte de sortie, il faut continuer à se battre, disent les parents d'Olivier Grondeau, Alain et Thérèse. Le Français est détenu en Iran depuis 2022.
Chaque rassemblement est très important. C'est urgent. Psychologiquement, ils sont faibles.
Et puis, il y a cette solidarité entre tous les parents. C'est formidable. On en a besoin.
Solidarité et émotion aussi au-delà des cercles familiaux. Exemple avec Lola, une étudiante qui a tenu à être présente.
Enfin, ils sont un peu impuissants. Ils sont loin. Et même si je ne la connais pas, bah, ça montre que ces trois personnes ne sont pas oubliées.
Tous attendent maintenant beaucoup de ce qui pourrait être entrepris par Emmanuel Macron pour faire libérer Cécile Keller, Jacques Paris et Olivier Grondeau.
Veuillez, je vous en prie, trouver un accord et libérer nos enfants. Agissez, s'il vous plaît.
Emmanuel Macron doit recevoir les familles de ces détenus en Iran dans les prochains jours. Un éboulement rocheux aujourd'hui sur la route nationale 90, c'est en Savoie. Accès très difficile aujourd'hui vers les stations des Trois-Vallées. Ça concerne notamment Tignes, Val d'Isère, La Plagne, Les Arcs et La Rosière. Chute de pierre donc à hauteur d'Aigueblanche dans le sens Albertville-Moutier. Au moins une voiture est accidentée. accidenté, un blessé léger hospitalisé. La circulation a été interrompue pendant un bon moment, rétablie finalement dans les deux sens en début d'après-midi, mais le trafic restait bien saturé. Luc Trottmann est le directeur de cabinet du préfet de Savoie.
Le trafic est saturé, mais néanmoins, ça s'écoule très lentement puisque nous avons utilisé le tunnel de Ponsran en double sens de circulation pour permettre une montée en station. Donc néanmoins, là où on pouvait faire passer presque 2 500-3 000 véhicules heure, nous ne pouvons plus en faire passer que 800 à 1 000 par heure. Donc chacun comprendra que vu les débits et le nombre de voitures présentes, ça sera très compliqué pour monter en station. Ce n'est pas impossible, mais ça sera très compliqué. Et c'est pour ça que nous incitons si possible chacun à pouvoir prendre une pause. L'accès en Tarentaise est très compliqué.
Voilà, propos recueillis par Tony Cataneo ici, Pays de Savoie. 3 morts ce matin et 9 blessés dans un EHPAD en feu à Bouffémont, c'est dans le Val d'Oise. Les 3 victimes avaient 68, 85 et 96 ans. Tous les 3 intoxiqués par les fumées. 110 pompiers se sont rapidement déplacés. Le feu a pris dans la buanderie. Origine très certainement accidentelle. Jordan Bardella réclame un référendum sur l'immigration. Le président du Rassemblement National a poussé l'idée cet après-midi lors d'un meeting à Montélimar. Référendum sur l'immigration dont la constitutionnalité est remise en cause par certains experts. Et c'était une façon de répondre aujourd'hui au sentiment de submersion migratoire exprimé cette semaine par le Premier ministre François Bayrou. Le sport avec la Coupe Davis de tennis pour la France. Premier tour ce week-end à Orléans. L'équipe de France accueille le Mexique. Sur le papier, la France est largement favorite. Et bien sur les courts aussi, car après les 2 premiers simples aujourd'hui, Hugo Humbert et Arthur Fils, respectivement numéro 1, numéro 2 français, se sont tous les deux imposés et à chaque fois en 2-7, Fabrice Abgral.
Et c'est Hugo Humbert dans le premier simple qui a mis la France sur les rails en dominant avec autorité João Fonseca, 18 ans, le phénomène brésilien. Le Messin ne s'est pas laissé impressionner par la puissance de frappe de Fonseca. Le Brésilien cogne sans retenue, sans variation ni temporisation, mais Hugo Humbert, percutant, l'a contré en produisant un tennis d'une extrême solidité, notamment au service, domaine dans lequel le Brésilien ne s'est procuré aucune balle de break sur le service du Messin. Hugo Humbert a montré la voie, Arthur Fils l'a suivi sans trembler face au numéro 1 brésilien et 76e mondial Thiago Seboutwild. Comme Hugo Humbert, le francilien s'est imposé en 2-7, là encore avec détermination. Un premier set expédié en 23 minutes, un deuxième plus serré, mais en fin de match, Arthur Fils plus solide a su faire la différence. La France n'est plus qu'à 1 point de la qualification pour le deuxième tour. Ce point pourrait être apporté en double par la paire Pierre Hugerbert et Benjamin Bonzi. En cas d'échec, il restera encore les 2 derniers simples avec Hugo Humbert et Arthur Fils.
Fabrice Abgras, le football, Brest contre Paris cet après-midi pour la 20e journée de Ligue 1. Le match vient de se terminer. 5-2 pour le PSG. La prochaine rencontre entre les deux mêmes équipes, ce sera en Ligue des Champions dans 10 jours précisément. Des nouvelles de Teddy Riner, c'est du judo. Teddy Riner opéré récemment du coude droit. Le quintuple champion olympique espère reprendre la compétition d'ici avril-mai, même si pour l'instant, dit-il, le calendrier n'est pas encore réalisé. Vous connaissez certainement les applications de rencontres amoureuses, pour ne pas dire rencontres parfois sexuées. Elles sont, semble-t-il, en déclin depuis 2020. Dans un autre genre, voici les applis de rencontres amicales. Pour briser la solitude ou bien élargir son cercle d'amis, il en existe plusieurs. Freemake ou bien Meetup, par exemple. Elle propose à l'abonné des activités selon sa localisation, selon aussi ses centres d'intérêt, cinéma, jeux de société, apéro, discussion ou bien cours de danse. Rosalia MacArthur, vous êtes allée dans un bar à jeux du 11e arrondissement de Paris où de jeunes adultes se sont donc donné rendez-vous pour des rencontres bien amicales.
Autour de la table, les joueurs rient, se taquinent. Ils se sont rencontrés il y a 1 heure grâce à l'application Meetup.
C'est la première fois que j'utilise.
Souraya fait des études de commerce très sociables. Elle vient d'arriver à Paris pour un stage.
J'avais envie de rencontrer des gens en dehors de mon cercle qui du coup jouent aux jeux de société.
Elle montre les dessins gribouillés sur son calepin à Asensio, 25 ans.
Le jeu c'était esquisser.
Pour lui, ces rendez-vous amicaux entre inconnus, c'est beaucoup moins de pression que les applications de rencontres amoureuses.
Ça aide à rencontrer des gens sans être vu comme un produit, quoi. Il y avait seulement une fois où j'ai réussi à avoir un date avec une fille, c'était beaucoup de temps investi pour pas grand-chose.
À la table d'à côté, un groupe s'est retrouvé via une autre application de rencontre amicale, FreeMake, où les deux tiers des utilisateurs ont moins de 40 ans, comme Anis, très actif sur FreeMake.
Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sorties, donc ça peut aller jusqu'à 4 fois par semaine. Principalement, c'est les jeux de société. On fait également des restaurants, des sorties dans des bars, dans son.
Ces activités sont sélectionnées par un algorithme, explique Alaé Elayat, président fondateur de FreeMake.
Il y a un classement en fonction de ses centres d'intérêt, son âge, son sexe et de toutes les activités qui ont déjà été réalisées sur FreeMake. Pour peu qu'une jeune femme propose une activité juste entre femmes, cette activité elle va être suggérée qu'à des femmes.
Les femmes sont majoritaires sur FreeMake, contrairement aux applications de dating où les hommes sont plus nombreux.
Et pourquoi ne pas rencontrer de nouveaux amis dans les files d'attente au cinéma? Et je vous propose de revenir sur l'un des succès cinéma de ce début d'année, le documentaire intitulé « Personne n'y comprend rien » de Yannick Kergoat. Documentaire sur l'affaire Kadhafi, plus précisément l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Le procès se tient en ce moment avec l'ancien président à la barre. Le film a déjà attiré plus de 80 000 spectateurs, probablement 100 000 la semaine prochaine. Un film diffusé pourtant dans peu de salles, mais le bouche à oreille a fonctionné, Victor Vasseur, notamment dans les Landes à Mont-de-Marsan où vous vous êtes rendu.
À la sortie de la salle, il y a d'abord de l'enthousiasme.
Lumineux, lumineux.
Puis le sentiment d'avoir enfin compris cette affaire tentaculaire, documentée depuis 14 ans par Mediapart.
C'est un film vraiment très clair, très pédago. Et on sort de là totalement convaincu, quoi. Ça fait pas un pli.
On reste en éveil. Il y a toujours un point précis qui relance encore les faits. Si ce film était présenté au Festival de Cannes, je pense que Nicolas Sarkozy aurait pris l'interprétation masculine parce que c'est un très grand comédien.
Depuis la sortie du film, il y a des files d'attente devant certains cinémas. Des séances sont ouvertes en dernière minute, comme l'a constaté Michael Eschdenberg, co-auteur du documentaire.
Presque partout où on va, on fait salle comble. Il y a des salles qui refusent du monde. Et on voit une adhésion du public qu'on ne soupçonnait pas. Il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de « il faut penser ci, il faut penser ça, il est coupable, il n'est pas coupable ». C'est un film très factuel, en fait.
Et même le distributeur du film, Étienne Ollagnier, est surpris par cet engouement.
Sur Halluciné, pendant la première semaine, la note était montée jusqu'à 4,7 de moyenne sur 5. Je crois que c'est la note la plus haute que j'ai jamais vue sur Halluciné. Alors, elle est un tout petit peu redescendue depuis.
Pour sa quatrième semaine en salle, le film sera projeté dans 274 cinémas, contre une cinquantaine début janvier.
Personne n'y comprend rien, le documentaire de Yannick Kergoat, l'un des succès cinéma documentaires de ce début d'année. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Du soleil pour demain.
Oui, globalement, ça sera une très belle journée. Le soleil sera largement présent dans l'après-midi et déjà dans la matinée sur la plupart des régions. Mais on a quand même quelques grisailles qui vont circuler au lever du jour avec, par endroits, des brouillards comme dans le Val-de-Saône, la vallée de la Garonne. On pourra en avoir également un petit peu sur la moitié nord du pays. On aura aussi, toujours le matin, quelques nuages un petit peu plus présents sur la pointe bretonne avec peut-être là quelques gouttes. Ça, c'est une perturbation qui va tenter de rentrer sur le territoire, mais qui ne va pas y arriver. Et puis, je vous l'ai dit, dans l'après-midi, c'est le soleil qui devrait s'imposer et briller généreusement sur une grande partie du pays.
Et attention demain matin à ces quelques gelées.
Oui, elles vont se généraliser, elles aussi, avec ce ciel principalement dégagé. La moyenne ira de moins 4 à moins 1 degré, 3 à 7 près de la Méditerranée. Quant aux valeurs maximales, elles iront de 4 à 10 degrés sur la moitié nord, 9 à 14 sur le sud-ouest, 13 à 17 pour le pourtour méditerranéen.
C'était Céline Dacosta.